Bonjour. Donc aujourd'hui, je vais vous parler, enfin, je vais faire ma deuxième séance des trois séances que j'ai consacrées à l'éthique, sous le titre général Laïcité et fait religion. Et aujourd'hui, j'ai intitulé cette séance Si Dieu est mort, tout est permis. Donc je vais commencer par commenter un peu ce titre. Et voir un petit peu quelles questions en découlent, voir aussi comment essayer de comprendre aussi pourquoi au XIXe siècle une telle formule peut avoir lieu, donc ce qu'elle signifie, et je n'annonce pas plus pour l'instant. Alors, le situé mort, tout est permis, en fait c'est un mélange en fait, hein, de deux citations. Puisqu'il y a Dostoïevski qui lui dit « Si Dieu n'existe pas, tout est permis ». C'est dans un roman qui s'intitule « Les frères Karamazov ». Ce roman date de 1880, c'est le dernier grand roman que Dostoïevski ait écrit, puisqu'il est mort en 1881, à l'âge de 60 ans. Et en fait, cette idée, si Dieu n'existe pas, alors tout est permis, c'est vraiment le fil directeur de tout le roman. C'est-à-dire que ça revient comme une espèce de leitmotiv qui hante en fait les protagonistes du roman et qui va en plus recevoir différents types d'interprétations. C'est-à-dire que le sens de cette affirmation, selon les frères, en fait, n'est pas le même. Donc ça, je vais commencer par développer ça. Mais d'abord, je vous ai dit que ce titre, c'était finalement la croisée de deux citations. La deuxième source, c'est Nietzsche, qui dit « Dans le gai savoir, Dieu est mort », et qui parle de l'annonce de la mort de Dieu, principalement au livre 3 et au livre 5 du gai savoir. Alors, ce qui est intéressant, il me semble, c'est que le gai savoir, il date de 1881, c'est-à-dire qu'il est absolument contemporain de Dostoïevski. Et d'ailleurs, Nietzsche est un lecteur de Dostoïevski, puisque, comme je crois l'avoir rapidement dit la dernière fois, il considère Dostoïevski comme le plus grand psychologue qui ait jamais vécu. Alors, on verra que l'interprétation que donne Ivan Fyodorovitch Karamazov donne de cette annonce, hein, de cette idée, si Dieu n'existe pas, tout est permis, on peut la rapprocher de la problématique nietzschéenne. Hein, la mort de Dieu chez Nietzsche, elle est interprétée tout à fait dans le même sens que l'un des trois frères Karamazov. Bon, on pourra voir ensuite aussi comment Sartre reprend cette phrase dans l'existentialisme et l'animalisme. Dostoïevski avait écrit « Si Dieu n'existait pas, tout serait permis ». Il ne le dit pas au conditionnel, Dostoïevski. Ceci dit, Sartre se réfère directement à Dostoïevski et il en fait un principe même de l'existentialisme. Et Sartre, c'est aussi, dans les années 30, un grand lecteur de Nietzsche. Donc on a, d'une certaine façon, une continuité. Hein, on est autorisé à traiter la question à travers Dostoïevski, Nietzsche, Sartre. Et de telle sorte que ça vient quand même regrouper des grands questionnements et des grandes inquiétudes sur la question de la morale, sur la question de l'éthique dans le monde contemporain, aujourd'hui. Alors, si je reviens sur l'affirmation qu'on a dans le roman de Dostoïevski, en fait, il y a trois frères Karamazov. Le plus jeune des frères, c'est Alyosha. Il est... Alyosha est moine. Il vit dans un monastère. Et en fait, Alyosha, lui, il est croyant. Pour Alyosha, Dieu existe. Et l'idée que Dieu n'existe pas est pour lui tout bonnement impensable. Ensuite, il y a un autre frère, qui est Ivan. Ivan, lui, il est au milieu, hein, c'est le cadet. Et Ivan, lui, il est philosophe. Et il est... en fait, Ivan, c'est un libre-penseur. Et c'est Ivan qui déclare « Si Dieu n'existe pas, tout est permis. » Et il déclare ça, ces propos qui sont rapportés pendant une réunion à laquelle il assiste au monastère avec le Staretz, qui est la personne sainte du monastère, lors d'une réunion qui réunit tous les frères Karamazov avec le père, qui d'ailleurs fait scandale, puisque le père est un libertin, le père se tient très très mal. Très mal avec ses fils, très mal avec tout le monde, c'est un affreux jojo. Qui ne fait que porter le scandale partout où il passe. Et donc, dans cette réunion, il y a Piotr Alexandrovitch, qui est un ami qui est là, qui rapporte les propos d'Ivan. Voilà, figurez-vous, Ivan, ce qu'il raconte, il dit que si Dieu n'existe pas, alors tout est permis. Tout est permis, on peut tout faire, y compris le crime, y compris l'anthropophagie. Et Dimitri, qui est le frère aîné, entendant ça, dit « Ah, si Dieu est mort, tout est permis. Ça, je m'en souviendrai au moment où il le faudra. » C'est-à-dire qu'en fait, Dimitri, lui, il l'entend au sens où, justement, si Dieu est mort, alors je peux, ben, en gros, je peux tout faire. Puisque ce qui est quand même au centre des frères Karamazov, c'est la mort du père. C'est le parricide. Donc, à la limite, le fait que le parricide soit au centre des frères du roman des frères Karamazov, ça nous autorise à parler de la mort de Dieu. Enfin, il y a un père à tuer dans l'histoire, hein, et alors justement, Dimitri sera accusé du meurtre, puisqu'il, lui, il crie sur tous les toits qu'il va tuer son père, parce que son père est insupportable, et parce que son père lui doit beaucoup d'argent, et qu'en plus, il veut lui piquer sa fiancée, enfin, cette histoire. Et donc Dimitri, justement, sera accusé du meurtre du père parce qu'il a crié sur tous les toits qu'il allait tuer son père parce que c'est un personnage très bouillonnant, enfin bon, très attachant aussi. Et bon, mais Ivan, lui, quand il le professe, il ne le dit pas de cette façon. Justement, ensuite, il a l'occasion d'en rediscuter avec Alyosha, son petit frère. Et le chat dit, je crois que tu te rappelles cette réunion, tu as dit que si Dieu n'existait pas, tout était permis. Alors il va me dire, oui, mais je l'ai dit parce que je te voyais bouillir de colère, et je le faisais par provocation. Mais finalement, il dit que bon, bah, peut-être que Dieu existe, mais de toute façon, si Dieu existe, ce qu'il n'accepte pas, c'est tout ce qui en découle. Donc finalement, il préfère du coup qu'il n'existe pas. Enfin bon, Ivan, il passe son temps à tergiverser. Dieu n'existe pas, mais bon, fondamentalement, il n'y croit pas. Et puis alors, il y a un quatrième demi-frère qui s'appelle Smerdiakov, qui est le fils de la puante, hein, justement parce que le père a eu ce fils d'une femme plus ou moins débile. Et alors, Smerdiakov, lui, qui s'avérera être le véritable assassin du père, il entend Ivan qui dit sans cesse « Tout est permis ». Et alors, Smerdiakov, lui, c'est son refrain. « Tout est permis ». Le monsieur a dit « Tout était permis ». Et finalement, Smerdiakov, il se sent autorisé à tuer le père, hein, parce qu'Ivan a dit « Tout était permis ». Alors, comme on le verra, Ivan, lui, c'est à la fin du roman que, dans une période pratiquement de délire, hein, il fait un cauchemar où, en fait, il se retrouve en présence du diable, mais qui finalement est son double. Et à ce moment-là, il donne un sens au tout est permis. C'est pas Dieu est mort, enfin, Dieu, si Dieu n'existe pas, ça ne veut pas dire qu'on va faire n'importe quoi. Si Dieu n'existe pas, eh bien, on est libéré et on peut inventer l'homme. Hein, on peut inventer l'homme nouveau. Enfin, je pourrais, si j'ai le temps, vous en dire juste un petit passage de ce cauchemar d'Ivan Fyodorovitch, parce que vraiment, il est. C'est frappant par rapport à Nietzsche, hein, comme ça peut être proche. Et avec l'idée que si Dieu n'existe pas, eh bien, ça ne veut pas dire qu'on va faire n'importe quoi, parce qu'on n'a pas besoin de lui pour ne pas faire n'importe quoi. Et s'il n'existe pas, eh bien, il n'y a pas une morale préétablie. On est libéré de cette morale, et on peut justement penser l'homme autrement. Et ça sera la thèse de Nietzsche. Alors, justement, cette très rapide analyse, hein, on a justement dans l'affirmation de Dostoïevski la possibilité de le prendre soi comme l'objet d'un effroi et d'une angoisse terrible. Hein. Si Dieu n'existe pas, alors tout est permis. Et ça, c'est l'angoisse d'Alyosha, le plus jeune frère, qui est moine. Hein. On a aussi l'exclamation du libertin, si Dieu est mort, tout est permis, je peux faire tout ce que je veux, il n'y a plus de limite, à ce moment-là, c'est l'immoraliste. Hein. Et puis, il y a Smerdiakov, carrément, si Dieu est mort, je peux tuer le père. Hein. C'est Dmitri qui payera pour lui, d'ailleurs, parce que Dmitri a tellement crié sur les doigts qu'il a tué le père que forcément tout le monde l'a cru. Et le dernier, Ivan Karamazov, justement, il nous invite à entendre cette idée, cette phrase, au sens où, si Dieu n'existe pas, alors on va pouvoir... c'est à l'homme de créer l'homme. Hein, alors justement, ça pourrait me permettre de faire une opposition entre... ou plutôt d'ouvrir... Hein, vers l'idée que s'il n'y a ni Dieu, ni ordre éternel du monde, alors on peut penser la morale comme quelque chose qui est en devenir et qui est toujours à construire. C'est-à-dire qu'il ne se réfère pas à, disons, des valeurs qui se fondraient qui se fondraient en Dieu ou dans une nature éternelle, mais ça serait précisément l'homme en tant qu'il, les hommes en tant qu'ils existent, qui forgeraient justement cette morale, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, on a la morale comme produit historique. Alors, on pourra aussi se demander jusqu'à quel point elle ne dépasse pas les hommes eux-mêmes jusqu'à un certain point, mais à ce moment-là, il y a justement l'idée de quelque chose qui n'est pas figé. Et d'ailleurs, ça me fait penser à un autre passage qu'il y a dans les frères Karamazov qui est superbe. C'est quand Alyosha, c'est dans le premier tome, quand Alyosha et Ivan font connaissance, parce qu'en fait, ils ont été abandonnés par leur père. Le père a abandonné tous ses enfants quand ils étaient petits. Donc, ils ont été élevés à différents endroits, tous les trois. Et donc, Ivan et Alyosha font connaissance alors qu'ils ont 20 et 23 ans. Et Ivan raconte à Alyosha... Oui, il raconte à Alyosha un poème en prose, en fait, qu'il n'a jamais écrit, mais qu'il a là dans la tête, et qu'il appelle le grand inquisiteur. Et ça se passe à l'époque de l'Inquisition, donc 14e, 15e siècle, si je ne me trompe pas, il y a des historiens qui vont m'attraper sur les dates. Et le grand inquisiteur, en fait... alors qu'il vient de faire un auto da fé où il a brûlé sans hérétique, etc., voit tout d'un coup dans la foule apparaître Dieu, le Dieu fait homme, Jésus. Et il le fait arrêter. Il le fait, parce que Jésus, en plus, on le reconnaît, on lui dit c'est bien toi, fais des miracles, on lui promet que c'est bien toi, etc. Alors Jésus fait des miracles. Et le grand inquisiteur arrête Dieu, arrête le Christ. Et il le met dans un cachot et lui annonce demain je te fais brûler sur un bûcher, sur la place publique. Et en gros, il explique qu'il a dérangé tout le monde à réapparaître maintenant. Et il lui dit, de toute façon, tu n'as rien à me dire, parce que tu n'as pas le droit d'ajouter quoi que ce soit à ce que tu as déjà dit. Et ce qui signifie en fait que ce qui a été prononcé et qui est fondateur en fait de toute une religion et de toute une morale, doit rester figé. Donc, si tu arrives et que tu prétends avoir du nouveau à nous dire, on brûle. Parce qu'on n'a pas envie d'avoir entendu du nouveau. Nous, on s'en tient à ta parole qui est réputée être éternelle. Alors, en plus, au passage, il reproche au Christ d'avoir voulu l'homme libre. C'est-à-dire d'avoir voulu que l'homme obéisse à la loi librement, par choix, et non pas forcé par des miracles, il veut justement que les hommes se comportent comme des sujets responsables, comme des sujets moraux, des sujets moraux. Et le grand inquisiteur lui dit, heureusement qu'on a repris tout ça après toi, parce que en gros nous on a mis une église en place où on demande l'obéissance aux hommes. On leur donne du pain, et puis par la contrainte on les tient. Tu n'imagines pas comme ils nous aiment pour ça, parce que finalement, rien ne leur pèse plus que cette liberté que tu leur as donnée au départ. Et finalement, ils nous sont reconnaissants finalement de mener le troupeau, parce que dans ces conditions, ils n'ont pas besoin d'avoir demandé ce qu'ils vont faire d'eux-mêmes. Et donc, voilà. Alors, à la fin, le Christ se lève et il embrasse le grand inquisiteur sur la bouche. Ils s'embrassent tous sur la bouche, les frères Karamazov, parce que c'est des Russes. Et à ce moment-là, le grand inquisiteur, pour toute réponse, lui dit « Écoute, j'ouvre la porte, va-t'en, mais qu'on ne te revoie surtout jamais plus. Hein, » Donc, on ne brûle pas Christ. Mais... Donc, la mort de Dieu, on n'en était pas loin non plus, d'une manière ou d'une autre. Alors, j'aimerais bien, en fait, revenir un petit peu en arrière, surtout que la semaine dernière, je vous avais dit que j'avais envie de parler de Kant, et puis j'avais pas eu le temps du tout. Parce qu'il me semble justement que Kant, c'est un point d'inflexion, un point d'infléchissement entre toute la période du rationalisme classique dont j'ai parlé la semaine dernière, où il s'agit de fonder la morale dans une connaissance de la nature de l'homme, et donc dans l'idée d'un ordre qui est inscrit dans l'univers lui-même. On avait dit que finalement c'est une morale essentialiste. Et puis, les morales, ou plutôt la réflexion sur la morale, ou même l'angoisse qui va se développer à partir du 19e siècle, justement, quand on s'aperçoit qu'on ne peut plus faire une morale comme avant, ben, le point de basculement, on peut le rechercher du côté de Kant. Alors, je vous avais aussi cité rapidement la semaine dernière Foucault qui, dans Les mots et les choses, justement, oppose l'ancienne éthique et la nouvelle, en disant que l'ancienne justement repose sur un ordre du monde et est en mesure de prescrire à l'homme ce qui est bien, ce qui est mal, puisque ce qui est bien, ce qui est mal, c'est ce qui correspond à sa nature. Et la nouvelle, qui ne prescrit rien et qui ne va certainement pas dire ce que sont le bien et le mal. Et Foucault dit, la philosophie aujourd'hui ne peut plus écrire une morale. Donc, quand il fait cette opposition, il met dans une petite note Kant, justement, c'est l'intermédiaire entre les deux. Donc, on peut se demander ce qui se passe chez Kant, justement, qui va, en fait, conduire à une remise en question de la morale rationaliste classique. Ce qui peut aussi sembler paradoxal, parce que Kant, il est quand même connu pour être celui qui a formalisé la morale. Et c'est vraiment, oui, le philosophe moral par excellence. Alors justement, je vais prendre par deux biais. D'une part, en montrant que justement la morale kantienne ne prescrit rien, qu'elle commande essentiellement de faire usage, d'être capable de juger, d'être capable de jugement moral. Et puis, je vais aussi traiter la question de Dieu chez Kant. Et en fait, bon, alors, c'est un petit peu en rupture par rapport à ce que j'ai annoncé pour l'instant, jusqu'à présent, parce que je fais un petit peu un retour en arrière, pour montrer justement que Kant, en fait, il ouvre une brèche dans la pensée morale classique, hein, dans laquelle la philosophie au XIXe va s'engouffrer. Et au XIXe, on va avoir non seulement des critiques, des critiques de la religion, ou même carrément l'idée que on doit se passer complètement du religieux, mais on a aussi des pensées pessimistes, hein, comme par exemple celle de Schopenhauer, qui est un des grands auteurs de prédilection de Nietzsche. Et en fait, il y a quand même, au 19e, une angoisse qui apparaît. D'ailleurs, pour avoir travaillé sur cette question, justement, j'ai fait un travail justement qui consistait à montrer que c'est au 19e que le concept d'angoisse apparaît dans la philosophie. Avant, il n'est pas question d'angoisse dans la philosophie, puisque justement, finalement, on construit il y a une espèce d'optimisme rationaliste, pour reprendre une phrase, une expression de Kierkegaard. C'est-à-dire qu'on construit un ordre du monde, finalement, où toute chose a sa place, et il y a une grande confiance dans la raison qui d'ailleurs est portée aussi par la philosophie des Lumières. Et au 19e, ben, on va se retrouver justement avec un homme, on va voir apparaître ce concept d'angoisse, on va apparaître chez Kant, mais elle est, disons, dépassée dès que posée, puis ensuite on va le voir un peu plus chez Hegel, puis encore un peu plus chez Schelling, et puis finalement ça va devenir très très prégnant à travers tout le 19e, et en gros c'est quand même l'angoisse de l'homme jeté dans l'univers, comme le diront Heidegger et Sartre au 20e, l'homme jeté dans l'univers, abandonné, esselé, c'est l'homme sans Dieu, qui ne repose que sur lui-même, qui est totalement responsable de lui, comme le dira Sartre, et qui en fait doit justement, c'est sur lui que repose l'existence finalement, hein, c'est-à-dire que c'est lui qui doit être capable de juger, qui doit finalement se construire, se porter dans l'existence. D'ailleurs, l'angoisse, elle est omniprésente dans les frères Karamazov. Et le plus angoissé des trois frères, enfin, je ne sais pas lequel c'est, parce que c'est l'angoisse sur pattes, de toute façon, les trois frères Karamazov. Hein, c'est un texte qui est complètement fou, qui est plein d'angoisse, d'hystérie, d'obsession, enfin, c'est extraordinaire. Alors, donc tout ça, pour revenir à Kant, et montrer que, justement, lorsque Kant formule l'impératif catégorique, qui est la loi morale, il l'a formule de telle sorte que rien n'est prescrit, justement. Alors, la loi morale, c'est agit toujours de telle sorte que tu puisses vouloir que la maxime de ton action soit érigée en loi universelle. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'agis, il faut que la maxime de mon action, c'est-à-dire la raison subjective pour laquelle j'agis, puisse être érigée, je dois pouvoir vouloir qu'elle soit érigée en loi universelle. Donc, l'acte moral, il suppose la possibilité d'une universalisation, c'est-à-dire que l'acte moral a pour horizon l'humanité. Donc, agis toujours de telle sorte que tu puisses vouloir que la maxime de ton action soit érigée en loi universelle, ça ne veut pas du tout dire ne fais pas à autrui ce que tu ne veux pas qu'on fasse à toi-même. Ça veut dire quand tu agis, tu dois toujours vouloir que la raison pour laquelle tu agis puisse valoir pour tout homme absolument. Et ça suppose chez Kant justement le principe du respect absolu de l'humanité. C'est-à-dire que je dois, en tout homme, respecter l'humanité tout entière. Donc quand j'agis à l'égard de l'autre, ça doit toujours être dans la considération justement de Alors, de ce qui s'appelle le règne des fins morales chez Kant. Le règne des fins morales, ça serait la paix perpétuelle. C'est-à-dire si justement on pouvait, si on pouvait arriver finalement à cette espèce d'harmonie entre tous les hommes. Mais ça, c'est une finalité qui en fait n'existe que comme idéal chez Kant et vers lequel on doit tendre. Alors, l'impératif catégorique, il commande absolument. Alors, la grande différence avec les morales que j'ai exposées la semaine dernière, c'est que le but de la morale chez Kant, c'est pas le bonheur. Tant que, pour Kant, selon Kant, on considère que la morale, c'est ce qui doit pouvoir permettre d'être heureux, on n'aura pas un acte moralement pur parce que la morale sera intéressée. Et l'acte moral doit être désintéressé. Donc, tant qu'on cherche le bonheur, les penchants, les désirs, les inclinations, les passions vont s'en mêler. Donc un acte moralement pur, c'est un acte qui est fait par devoir, par pur respect pour le devoir. Mais qu'est-ce que je respecte dans le devoir? L'humanité. L'humanité tout entière. Donc il y a une sublimité du devoir, du fait que il fait que je me trouve toujours finalement dans mes actes situé face à cet horizon que constitue l'humanité et qui est justement ce qui a la dignité finalement la plus haute. Donc l'acte immoral, c'est l'acte indigne, c'est celui qui justement ne respecte pas l'homme, ni en l'autre, ni en moi. Alors, l'impératif catégorique, il commande absolument. Impératif, il commande. Catégorique, il est universel et nécessaire. C'est-à-dire que je dois toujours, absolument, y obéir. Cependant, quand on voit cette formule, on voit qu'il ne me dit rien. Il me dit pas ce que je dois faire. Il me dit quel principe je dois avoir en moi. Et d'ailleurs, ce principe, c'est un fait de la raison. C'est-à-dire que tout homme, en tant qu'il possède la raison, trouve en lui la loi morale ou l'impératif catégorique en tant qu'être raisonnable. Et bon, finalement, plus la raison se développe, hein, et plus les hommes sont à même de ressaisir ce principe, cette loi morale qui est en eux. Il y a d'ailleurs chez Kant l'idée que lorsque les hommes ne se donnent pas à eux-mêmes la loi, ce qui est l'autonomie au sens propre du terme, hein, auto c'est soi-même, nomos c'est la loi. Donc l'autonomie, c'est se donner à soi-même la loi. Quand les hommes ne se donnent pas à eux-mêmes la loi en tant qu'êtres moraux, à ce moment-là, il y a la religion qui vient justement leur prescrire l'obéissance aux actes de foi, aux articles de foi. Et la religion, à ce moment-là, est un bon secours. Mais la morale, elle se fonde dans la seule raison, donc il n'y a pas de fondement théologique de la morale. Ce n'est pas Dieu qui est au fondement de la morale. C'est la seule raison. Alors, justement, à propos de cette idée que l'impératif catégorique ne prescrit rien, à partir de là, il y a des problèmes d'interprétation et des discussions qu'il y a eu autour de ça. Parce que, en gros, Kant dit que les jugements moraux sont déterminants, c'est-à-dire que l'impératif catégorique, il est aussi nécessaire et universel, finalement, que les lois de la nature. Le problème, c'est que il y a une distinction qui est faite par Kant dans la critique de la faculté de juger, c'est-à-dire sa troisième grande critique, entre les jugements déterminants et les jugements réfléchissants. Les jugements déterminants sont des jugements de connaissance. J'ai un certain nombre de lois et de concepts, et je peux les appliquer à des objets. Donc la loi m'est donnée et je peux l'appliquer. Les jugements réfléchissants, j'ai des cas singuliers et je ne dispose pas de la loi. Donc il va falloir à ce moment-là qu'à partir du cas singulier, j'envisage une règle qui doit pouvoir ensuite être appliquée à d'autres cas. Et alors justement, l'impératif catégorique, il est un petit peu à cheval sur les deux, parce qu'il y a une loi qui est donnée. C'est la loi morale, c'est l'impératif catégorique, agit toujours de telle sorte, etc. Mais pourtant, je n'ai pas pour autant de prescriptions précises qui me disent comment agir dans tel ou tel cas. Donc, on est à ce moment-là dans le cas des jugements réfléchissants, et Anna Arendt, c'est vraiment, vraiment ce côté-là quand elle interprète Kant, qu'elle se dirige. À savoir, je dois justement, en tant que sujet responsable, juger, être capable de juger dans telle ou telle situation singulière ce que je dois faire. Alors il y a eu d'ailleurs des discussions parce que il y a Victor Cousin, enfin Kant lui-même donne des exemples. Et par exemple il prend comme exemple le mensonge. On ne doit jamais mentir. Parce que l'impératif catégorique nous en empêche. Et Victor Cousin répond à Kant, imaginons le cas où mon pays est en guerre, où je cache chez moi un ami qui résiste contre l'envahisseur. Les soldats arrivent chez moi et me demandent si cet ami est chez moi. Si je n'ai pas le droit de mentir, je dois livrer mon ami. Et alors, Kant, lui, il maintient que je ne dois jamais mentir. Mais on voit avec un exemple comme ça que finalement, là, on se retrouve devant des problèmes qui ne sont pas si faciles à trancher. Parce que si je livre mon ami, c'est à mon ami que j'ai menti. Je lui ai dit que je le cachais et je le trahis. Et on se retrouve à ce moment-là, justement, dans des situations où il faut trancher, où il faut décider. Vers le concept d'angoisse au 19e, et il sera revu aussi de cette façon-là par Sartre, c'est l'angoisse de la liberté, justement, qui doit choisir. C'est l'angoisse du choix. Hein, c'est, justement, je ne sais pas à l'avance que je dois choisir. Et justement, ça ne repose que sur moi seul. Et ça donne le vertige, justement. C'est le vertige de la liberté chez Kierkegaard, repris par Sartre dans l'être humain. Donc, et d'ailleurs, Sartre donne aussi des exemples, par exemple, l'existentialisme et un humanisme, cet étudiant qui vient le voir et qui lui demande, voilà, est-ce que je veux partir, je voudrais partir pour me battre dans le maquis, mais il y a aussi ma vieille mère qui en mourra si je m'en vais. Qu'est-ce que je dois faire? Et Sartre le renvoie chez lui en disant, c'est ta responsabilité, il n'y a que toi qui peux prendre une décision comme celle-ci. Mais justement, le concept d'angoisse, c'est complètement lié à l'instant de la décision. Parce qu'une fois que j'ai pris la décision, je ne peux plus revenir en arrière. Et je dois absolument. Je suis obligée de m'en tenir. Je suis tenue. Hein, c'est l'idée d'engagement qu'on a aussi chez Sartre. D'ailleurs, l'angoisse, ça vient du latin angustia. Et angustia, c'est le passage étroit. Et dans le dictionnaire latin, on peut lire que c'est précisément le passage étroit que l'enfant doit franchir pour naître. Et qu'une fois qu'on est engagé, il faut y aller. On ne peut pas revenir en arrière. Alors il y a aussi, le deuxième exemple, c'est un défilé avec une armée justement qui s'engage dans le défilé, puis qu'une fois qu'elle s'est engagée, elle ne peut plus faire demi-tour. Donc l'idée, c'est qu'il y a un passage étroit. Il faut y aller. Une fois qu'on a commencé à passer, on ne peut plus revenir en arrière, donc les dés sont jetés. Et donc finalement, quand on choisit, on vient limiter finalement, limiter nous-mêmes notre liberté, puisque on est nous-mêmes liés par le choix qu'on a fait. Alors, chez Kant, ce problème de l'angoisse par rapport à la loi morale, il n'est pas posé. Mais il n'empêche que la morale kantienne va avoir des répercussions en soi énormes au XIXe siècle et encore après. Et il va y avoir toute une génération, même dès après Kant, qui va commencer à poser des problèmes comme ça. Parmi les romantiques allemands, par exemple. Et puis il y a aussi la question que posent ceux qui viennent juste après Kant. Si tout repose sur la raison, elle repose sur quoi? Et ça va conduire des philosophes comme Hegel ou Schelling, justement, à traiter la question, justement, de la genèse de la raison. La raison, d'où vient-elle? Et à ce moment-là, c'est traité chez Hegel, mais chez Jung aussi, chacun à sa façon, mais ils sont amis et ils travaillent en tout cas pendant un certain temps ensemble. En 1807, quand Hegel publie la phénoménologie de l'esprit, il écrit un truc qui a fâché chez Jung, et puis après, ils ne se sont plus jamais parlé. Mais n'empêche qu'ils ont continué dans le même esprit, hein, de penser justement la raison comme formation, et comme formation historique. Hein, donc, comment la raison en est venue justement à se développer. Et donc finalement, quand il rend possible cette interrogation ou cette inquiétude finalement, un peu paradoxalement, parce que lui il veut poser un impératif catégorique, mais justement cet impératif catégorique il ne nous dit pas ce qu'on doit faire. Si ce n'est respecter l'autre, respecter l'homme, respecter l'humanité en tout homme. Parce que là, il y a un deuxième élément chez Kant qui d'une certaine manière, ouvre cette brèche, c'est qu'en fait, Dieu, chez Kant, il y a un Dieu. Mais justement, Dieu, il n'est pas le fondement de la morale. Et plus encore, ce Dieu, il est une idée de la raison. Et ça, c'est ce que Kant montre dans la critique de la raison pure. C'est-à-dire que la raison n'a pas du tout les moyens ni le droit de prouver l'existence de Dieu. Puisque pour qu'il y ait preuve, pour pouvoir prouver la validité d'un concept, il faut disposer d'un certain nombre d'intuitions ou de perceptions, c'est-à-dire qu'il faut justement que cette idée se rapporte à quelque chose dans le monde de l'expérience ou dans le monde des phénomènes. Or, l'idée de Dieu, de ce point de vue-là, ne peut absolument pas être prouvé. Alors, c'est d'une certaine manière ce qu'il appelle le délire de la raison, quand elle se met justement à prétendre pouvoir prouver l'existence de Dieu, comme l'ont fait les théologiens, et comme le fait encore Descartes, dans les méditations métaphysiques. Et c'est justement, en fait, la raison qui s'envole loin du terrain de l'expérience, qui prétend voler de ses propres ailes, dans un terrain, finalement, où elle n'a plus aucune assise dans le monde des phénomènes et dans le monde de l'expérience. Alors, Kant déconstruit tout ça dans la critique de la raison pure, mais il montre en même temps que la raison a un besoin, qui fait que on a malgré tout le droit, nous dit-il, de se servir de l'idée de Dieu, et faire comme s'il y avait un Dieu. C'est-à-dire que ce qui vient justifier le recours à l'idée de Dieu chez Kant, c'est un besoin formel de la raison. Sans l'idée de Dieu, plus rien ne soutient le monde. Et finalement, on ne peut pas penser le monde comme système. Hein, ce qui est remis en question, c'est finalement l'unité, l'ordre finalement de l'univers. Il nous dit dans la critique de la raison pure, Dieu c'est ce qui permet de penser la plus vaste unité systématique de tous les phénomènes en général. Donc, alors je ne peux pas du tout prouver que Dieu existe. Il montre justement que c'est ce qu'il appelle l'abîme de la raison humaine. Parce que si on se met à vouloir dire ben, Dieu existe parce qu'il soutient toute chose dans l'existence et que le monde ne pourrait pas exister si rien ne le soutenait, on demanderait et alors Dieu qu'est-ce qu'il soutient ? Et si Dieu se demande « Moi, d'où suis-je ?», à ce moment-là, le monde s'écroule dans son ensemble. Il n'y a plus d'été, il n'y a plus de soutien. Mais la raison, elle se contente d'un Dieu en idée, qui est donc, selon lui, objectivement insuffisant. C'est une idée qui est objectivement insuffisante, je ne peux pas la prouver, mais qui est subjectivement satisfaisante. Alors, cette idée, donc, elle est nécessaire pour la raison théorique. Puisque les sciences elles-mêmes, quand elles pensent les rapports, les relations entre les phénomènes, elles présupposent le monde comme système. C'est-à-dire un système, c'est un tout au sein duquel, une totalité au sein de laquelle toutes les choses sont liées entre elles. Et justement, les lois de la nature, c'est ce qui permet de ressaisir les relations entre les choses. Et le scientifique, en fait, dans son travail, il présuppose il présuppose un ordre du monde, il présuppose une systématicité du monde, ce qui suppose que la science repose sur une métaphysique, sur une vision métaphysique, sur une représentation métaphysique du monde. Donc cette idée de Dieu, justement, c'est une idée régulatrice, c'est-à-dire qu'elle offre un cadre, une règle à la raison, qui permet justement de penser le monde comme un système, et qui donc permet finalement qu'il y ait du sens. Finalement, toutes les idées dites régulatrices chez Kant, c'est des idées qui sont indispensables pour pouvoir penser le sens. Le sens de l'histoire, le sens pouvoir penser le monde comme totalité, pouvoir à partir de là connaître le monde par les lois scientifiques, etc. Donc on arrive quand même à cette idée qui est exposée de manière géniale dans la critique de la raison pure. Finalement, le dieu des philosophes, quand il le reprend, mais il met un comme si devant. J'ai le droit de faire comme s'il y avait un être intelligent qui était l'auteur du monde et qui avait créé le monde selon un ordre. Ce qu'est le monde en soi, je ne peux rien en dire. Est-ce qu'il y a un ordre dans le monde? Je ne peux rien en dire parce que de toute façon, je ne puis jamais parler du monde qu'à travers les formes de l'esprit humain. Or, l'homme, lui, il a besoin de penser un ordre du monde. Sinon, tout simplement, le monde n'est pas connaissable et finalement n'a plus de consistance. Alors ensuite, il nous dit que cette idée de Dieu, on en a aussi besoin au niveau pratique, c'est-à-dire au niveau moral. Mais à ce moment-là, ce n'est pas pour fonder la morale. Et Dieu apparaît dans la critique de la raison pratique comme un postulat de la raison pratique. Un postulat, c'est une proposition non démontrée et non démontrable dont on a besoin, à laquelle on fait appel pour les besoins du raisonnement. Pour pouvoir continuer le raisonnement. Donc ici, Dieu n'apparaît pas au fondement de la morale, mais il apparaît comme un postulat, c'est-à-dire comme une proposition non démontrée, non démontrable, mais qui va pouvoir permettre de maintenir le projet moral. Parce que le problème, c'est que justement, si l'acte moral pur, ce n'est pas l'acte qui recherche le bonheur comme finalité, comment être sûr que... comment est-ce qu'on va pouvoir finalement contraindre les hommes à être moraux, hein? C'est-à-dire finalement, si je ne peux pas espérer atteindre le bonheur, et qu'en plus, scandale, je constate qu'il y a des injustes qui sont heureux et des justes qui sont malheureux, à ce moment-là, c'est la ruine de toute morale. Donc dans la critique de la raison pratique, dans l'antinomie de la raison pure pratique, Kant va justement répondre à ce problème par deux postulats. Et qu'est-ce qu'on va ressortir du chapeau? L'immortalité de l'âme et l'existence de Dieu. C'est d'ailleurs Schopenhauer qui dira que Kant est un chrétien déguisé, hein, puisqu'il prétend se passer de Dieu pour fonder la morale, et au bout du compte, qu'est-ce qui sort? Sorti du chapeau, je crois bien que c'est Schopenhauer. Qu'est-ce qui sort de son chapeau? À la fin, tout à la fin, quand on s'y attend plus, l'immortalité là et l'existence de Dieu. Alors en fait, il ne s'agit pas ici de dire directement, en tout cas, les bons seront récompensés, les méchants seront punis. Mais comme il faudrait une infinité de générations pour réaliser le règne des fins morales, c'est-à-dire la paix perpétuelle, pour que chacun puisse espérer dans le souverain bien, c'est-à-dire dans cette paix réalisée qui serait en fait la réalisation de la loi morale dans le monde phénoménal, eh bien il faut d'une part poser l'immortalité de l'âme, puisque si l'âme est immortelle, alors il peut y avoir un espoir d'atteindre un jour le souverain bien dans une autre vie. Et puis, l'idée de Dieu, eh bien, elle permet de penser l'unité de la moralité et du monde phénoménal. C'est-à-dire que il y a d'un côté le monde des phénomènes, et puis d'un autre côté, il y a qui permet de penser justement la réalisation possible de la loi de la raison dans le monde des phénomènes, alors qu'au départ, elles ne sont pas, il n'est pas du tout dit que le monde des phénomènes se prête à la réalisation de la loi morale en son sein. Donc Dieu, lui, il est le souverain bien réalisé, il est justement l'unité du bonheur et de la moralité, hein, puisqu'en fait le souverain bien, c'est un bonheur qui est, soumis à la condition de moralité. Hein, c'est-à-dire il y a effectivement un bonheur qui est atteint, mais qui est conditionné, voilà, par la moralité. Et Dieu, c'est celui justement qui peut réaliser cette unité, hein, qui peut donc nous permettre d'espérer. À ce moment-là, il y a une promesse. Et c'est d'ailleurs là que Kant dit que la religion chrétienne est tout à fait en accord avec la morale, puisqu'elle elle est aussi porteuse d'une promesse. Et que c'est aussi... et finalement, Kant nous dit que la morale, l'être moral, c'est pas le bonheur qu'il recherche, mais il doit vivre de telle sorte qu'il puisse se rendre digne d'être heureux. Et de pouvoir éventuellement participer dans un lointain horizon à ce souverain bien qui nécessiterait une infinité de générations pour pouvoir être atteint, qui comme l'horizon justement recule au fur et à mesure qu'on avance. Donc il y a... Alors, si on regarde un petit peu quel est le statut de l'idée de Dieu chez Kant, on peut tout à fait comprendre que finalement, il y a aussi eu dans la suite des gens qui en aient conclu qu'on pouvait finalement s'en passer de cette idée. C'est-à-dire, j'ai besoin de l'idée de Dieu pour pouvoir penser le monde comme système. Si on n'est pas croyant, on peut demander, mais enfin, pourquoi est-ce que j'ai besoin de l'idée de Dieu pour penser le monde comme système ? Je peux très bien dire, voilà, l'homme a besoin de penser le monde comme système, parce qu'il n'y a que comme ça qu'il s'y retrouve, qu'il peut peupler justement ce monde de repères humains, et justement construire son humanité au sein d'un monde qui lui devient familier. Et c'est cet hasard qu'on va trouver dans la philosophie contemporaine. Et puis, si la morale repose tout entière sur la raison, pourquoi avoir besoin de poser ce postulat de Dieu, qui arrive finalement après, comme la cerise sur le gâteau. Et finalement, si on a montré que la loi morale, c'est en fait la raison, et que finalement, la morale, elle n'est possible que par liberté, nous dit Kant, hein, c'est-à-dire, c'est seul un sujet libre peut être un sujet moral, puisque c'est un sujet qui se donne à lui-même la loi. Pourquoi avoir besoin de cette idée de Dieu? C'est-à-dire que finalement, on pourrait très bien conclure de la lecture de Kant. Moi, c'est un petit peu ce que j'ai toujours été tentée de faire en lisant Kant, que finalement, l'idée de Dieu, elle est superflue dans l'histoire. Et il y en a qui sont pas privés pour tirer de telles conclusions au 19e. Et d'une certaine façon, on pourrait voir dans Nietzsche une radicalisation, finalement, du kantisme. Puisque Nietzsche, il franchit pas. Et justement, il dit Dieu est mort. Et d'une certaine manière, les thèses, par exemple, lorsque Kant dit Dieu, c'est un l'idée de Dieu, c'est un besoin de la raison, Nietzsche va rétorquer l'idée de Dieu, elle correspond à un besoin vital. C'est-à-dire que la religion, c'est une consolation. Et peut-être qu'il y aurait un moyen de s'en passer, parce que finalement, l'idée de Dieu, pour Nietzsche, c'est l'idée d'un homme malade, qui a besoin justement qui a besoin de se consoler, qui a besoin de se protéger, qui a besoin de trouver des repères face à l'inconnu. Mais justement, ce qui était besoin formel, ce qui était besoin rationnel, hein, chez Kant, ça devient un symptôme chez Nietzsche. Nietzsche dit qu'il est symptomatologue. Hein, et il pense justement la religion et la morale comme symptôme. Comme symptôme justement d'un homme malade. Hein. la force justement de se tenir tout seul et qui a besoin de l'équipe pour marcher. Donc on a à chaque fois une radicalisation des thèses de Kant, de la même façon lorsque Kant dit « je ne peux voir le monde qu'à travers les formes de l'esprit humain ». C'est-à-dire ce que sont les choses en elles-mêmes, je ne peux pas le savoir, puisque de toute façon je ne peux me représenter le monde que de façon humaine. Nietzsche lui rétorquera, nous ne pouvons avoir qu'une vision anthropomorphique du monde. C'est-à-dire que finalement nous nous projetons dans le monde, nous nous projetons dans les choses, on se rend dans le sens du monde, et on voit finalement le monde de manière purement humaine, en projetant d'ailleurs dans ce monde y compris nos jugements moraux, qui la plupart du temps nous empêchent de comprendre effectivement ce qui est, puisqu'on se précipite pour juger avant de chercher à comprendre, finalement. Et Nietzsche, lui, il en arrive à l'idée d'interprétation, c'est-à-dire non pas de vérité, il n'y a que des interprétations du monde, qui sont des points de vue sur le monde, des perspectives, perspectivisme. Donc voilà, tout ça pour montrer que, je ne vais pas me mettre à développer tout ce qui se passe au 19e, bien que ça soit d'une richesse extraordinaire, mais j'opère un petit peu le saut de Kant à Nietzsche. Et alors justement, j'aimerais bien montrer un petit peu ce que signifie chez Nietzsche le Dieu est mort. Alors justement ici, effectivement, il ne s'agit pas de dire Dieu existe, Dieu n'existe pas, l'homme est immortel ou l'homme n'est pas immortel. Dans Gai Savoir, qui est donc ce texte contemporain des frères Karamazov, Nietzsche dit Dieu est mort. Et en fait, il y a d'abord un petit aphorisme où il l'annonce. Et puis ensuite, il y a un aphorisme un petit peu plus long, quelques pages plus loin, où il dit, un aphorisme, c'est un fragment. C'est le terme grec qui signifie fragment, et Nietzsche, une pensée non systématique, justement. Chez Kant, il fallait penser le système, chez Nietzsche, on a une pensée fragmentaire, qui rejette justement toute construction systématique. Donc on a des aphorismes, des paragraphes, plus ou moins longs, sans forcément de continuité directe d'un paragraphe à l'autre, c'est-à-dire que pour lire Nietzsche, il faut d'abord se perdre pour pouvoir ensuite se retrouver. Ce que Nietzsche appelle avoir la faculté de ruminer. Avant que les écrits soient lisibles, il faudra que l'homme européen ait une faculté qu'il ne possède pas jusqu'à présent, à savoir la faculté de ruminer, justement. Et bon, alors à force de tourner dans les textes, on finit par trouver un petit peu des repères. Et alors, il y a un deuxième aphorisme où il parle de la mort de Dieu, et en fait c'est l'insensé qui se promène avec une lanterne, comme Diogène quand il cherchait l'homme, et il demande « Où est Dieu? Où est passé Dieu? Je cherche Dieu, je cherche Dieu. » Les hommes le regardent, ils se moquent de lui, ils rigolent tous. Et l'insensé se met en colère, il leur dit « Mais enfin, vous riez, mais Dieu est mort, vous ne connaissez pas la nouvelle, on ne vous l'a pas encore dit. » Mais plus grave, c'est que c'est vous qui l'avez tué. Et maintenant que vous l'avez tué, le soleil va s'éteindre, il n'y a plus d'ordre, le monde est chaos, et les autres, petit à petit, l'écoutent et sont un petit peu interloqués, et l'insensé conclut, la nouvelle n'est pas encore arrivée jusqu'à eux, ils ne sont pas encore mûrs pour la comprendre, ils ne comprennent pas ce que je suis en train de leur dire, c'est pour ça qu'ils se moquent. Donc on a ici donc l'idée que Dieu est mort et que ce sont les hommes qui l'ont tué. C'est-à-dire que la mort de Dieu ici, c'est que les hommes ont cessé d'y croire. Mais certains textes de Nietzsche, où finalement, ils montrent que c'est la volonté véracité qui s'est retournée contre elle-même. C'est-à-dire que finalement, à trop vouloir justement la vérité, on en est arrivé finalement à en désespérer, et finalement on se retrouve avec un homme à la fin du 19e qui n'a plus la force de croire en rien. Donc ces hommes qui ont tué Dieu, c'est ces hommes qui n'ont plus la force de croire, qui n'ont même plus la force de croire. Alors si on voit un petit peu peu les conséquences que ça peut avoir, cette mort de Dieu, et puis par rapport aux jalons qu'on a déjà posés avant. Ça suppose donc que, justement, il n'y a pas un ordre du monde. Il n'y a pas un ordre préétabli. Et que, comme il le dit dans le crépuscule des idoles, dans la réalité, le sens manque. Et bon, c'est précisément parce que le sens manque dans la réalité que c'est à l'homme d'en créer du sens. Ça, c'est vraiment une idée qu'on retrouve chez Nietzsche sans cesse, finalement. Et si bien qu'il y a, ce que Nietzsche déclare en même temps que la mort de Dieu, c'est la tragédie commence, incipit tragedia. La tragédie commence, mais précisément le fond tragique de l'existence, c'est justement le fait que il n'y a pas de sens, il n'y a pas de valeur éternelle, rien n'est donné à l'avance finalement. Et la philosophie du soupçon, elle consiste justement à déconstruire tous les jugements de valeur, puisque Nietzsche va s'interroger sur la valeur des valeurs, et finalement on en arrive à toucher le fond, mais qui est aussi, c'est vraiment le fond du désespoir, qui est d'ailleurs aussi mis en scène dans le Ainsi par les Zarathustra. Mais à partir de là, il s'agit pour Nietzsche de la transévaluation de toutes les valeurs, c'est-à-dire de repenser de nouvelles valeurs, c'est-à-dire de penser l'homme nouveau, qui s'appelle le surhomme chez Nietzsche, mais le surhomme, c'est pas celui qui est appelé à commander aux autres hommes, c'est celui qui est appelé à dépasser l'homme actuel, c'est-à-dire à inventer l'homme nouveau. C'est l'esprit libre qui est libéré justement de ce carcan, de cet ordre qui pesait sur lui comme un espèce d'esprit de pesanteur et qui l'a conduit finalement à retourner toutes ses forces contre lui-même, toutes les forces créatrices et vitales qu'il peut avoir en lui, les retourner contre lui-même au lieu justement de réaliser pleinement justement de réaliser pleinement son humanité. Donc, alors justement, cette philosophie du soupçon, elle va consister chez Nietzsche, Nietzsche qui se dit, il se présente à plusieurs reprises, comme psychologue, comme symptomatologue, avec la morale comme symptôme, comme historien, philologue, puisqu'au départ il a une formation de philologie, c'est-à-dire d'analyse du langage, et de généalogiste, comme généalogiste. Et justement, la critique que Nietzsche va faire de la morale, elle va consister précisément en une généalogie de la morale. Alors, l'idée de généalogie, j'ai déjà parlé d'une idée assez voisine de celle-ci pour l'instant, quand je parlais justement de la nécessité d'opérer une genèse de la raison. C'est-à-dire, si on veut faire reposer la morale sur la raison d'où elle vient? Bon, alors, c'est pas dans tout à fait de cette façon-là que Nietzsche pose la question, mais c'est une démarche qui va dans le même sens, parce que ça consiste à dire, si on fait la généalogie des valeurs morales, on va montrer que ces valeurs, elles sont historiques, qu'elles sont le résultat finalement de l'histoire des hommes, qu'elles répondent à des besoins purement humains, qu'elles ont évolué au cours de l'histoire, qu'elles ne sont pas éternelles, qu'elles relèvent d'une interprétation, qu'elles reposent sur une interprétation du monde et qu'elles induisent une interprétation du monde qui elle-même évolue au cours de l'histoire. Et on peut être amené aussi justement à montrer que ces valeurs n'ont peut-être pas autant de valeur que celles qu'on voulait leur prêter. Donc si je relis ça à la mort de Dieu, justement, le généalogiste, d'une certaine manière, la généalogie de la morale, elle va de pair avec la mort de Dieu, puisque il n'y a pas de valeur éternelle absolue dont l'homme hériterait, mais c'est finalement au cours de l'histoire que ces valeurs se sont construites. Et bon, on pourrait montrer en plus qu'elles se sont construites aussi peut-être à travers les hommes, c'est-à-dire collectivement, socialement. C'est-à-dire que c'est pas les hommes qui ont décidé par libre décision voilà ce qu'on appellera juste, voilà ce qu'on appellera bien. mais que c'est des comportements sociaux, des rapports entre les hommes, des rapports de domination, etc., qui sont traduits par des valeurs morales qui structurent la société et qui dicte et qui oriente finalement les comportements. Alors, dans cette perspective, il y a quelque chose que je voulais ajouter à propos de la chronologie, non, c'est pas bien. C'est l'idée qui m'agace parce qu'elle me parle de moi. Je continue. Alors, en fait, là, ce à quoi j'ai envie, en même temps que j'arrive à la fin, je m'en étais pas perçue non plus, cette idée justement qu'il n'y a pas de valeur morale absolue, il n'y a pas de prescription, que finalement, que rien n'est inscrit finalement dans l'ordre du monde et que c'est à l'homme que revient la responsabilité écrasante finalement de se construire et d'être capable de juger de ce qu'il doit faire ou de ce qu'il ne doit pas faire, on en arrive, et c'est la critique qui va être faite à toute cette pensée, y compris à l'existentialisme, au XXe. Une critique est adressée à Sartre dans l'existentialisme et l'humanisme, qui rapporte une conférence de Sartre et les questions qui lui ont été posées. Et parmi les critiques, il y a justement la critique du relativisme. Si ce n'est pas Dieu qui a fondé les valeurs, si les valeurs ne sont pas absolues, c'est que j'ai retrouvé mon idée de tout à l'heure. Mon idée de tout à l'heure, c'est pas une idée à moi seule, hein. C'est justement le fait que finalement on a transformé l'histoire en nature. C'est-à-dire quand on pose les valeurs morales comme fondées justement dans une nature et dans un ordre éternel des choses, en fait on transforme l'histoire en nature. C'est ce qui s'appelle la réification sociologique. C'est aussi, il y a Barthes aussi qui parle de ça dans Mythologie, hein, en disant justement les grands mythes sont une manière de penser justement de manière comme une nature, la nature étant finalement qui renvoie à la fois à une origine et à une universalité incontournable et indiscutable. Et donc la critique qui va être apportée à ça, c'est celle du relativisme. Alors ça veut dire finalement qu'on peut on peut penser ce qu'on veut. Ça veut dire finalement qu'il peut y avoir que chacun peut avoir sa morale. Et bon, alors c'est évidemment pas ce genre de conclusion que je voudrais arriver, ne serait-ce que parce que déjà moraux nous le sommes parce que nous sommes des êtres culturels et que nous recevons, que nous naissons dans un monde qui est déjà organisé, structuré et qu'on hérite justement des valeurs et des comportements moraux. Alors la réponse de Sartre, finalement elle ressemble un petit peu à celle de Kant. Sartre dit, quand je m'engage, c'est-à-dire quand je choisis de faire une chose plutôt qu'une autre, j'engage l'humanité entière dans mon acte. C'est-à-dire que quand je fais un choix, eh bien, j'estime finalement que je choisis l'homme, c'est-à-dire que je choisis finalement que j'engage l'humanité entière dans le sillage de mon choix. L'exemple, c'est celui de la monogamie. Si je me marie, j'engage l'humanité entière dans la voie de la monogamie. C'est l'exemple que donne Sartre dans l'existentialisme et l'humanisme. Alors, bon, ça soulève plein de questions que je n'ai pas le temps de développer là maintenant, mais qui, de toute façon, me conduisent vers la troisième séance que j'ai prévue pour la semaine prochaine. Bon, alors, j'ai intitulé « L'homme est-il un animal religieux ?» J'aurais aussi pu l'intituler « Pourquoi sommes-nous moraux ?» Hein, parce que finalement, c'est à cette question-là qu'on arrive. C'est-à-dire, si je n'ai pas besoin de Dieu pour être moral, et si ce sont les hommes qui font les valeurs, pourquoi on est moral ? Là, on pourrait répondre parce qu'on est des êtres sociaux et qu'on est obligés. Alors à ce moment-là, ça veut dire qu'une fois de plus, on est moral par fin de la punition. On pourrait dire non, on est moral parce qu'on est sociaux et qu'on on est des êtres sociaux et qu'on est constitué comme êtres sociaux à partir du moment où on hérite justement d'une morale qui est celle de notre culture. Oui, mais à ce moment-là, on ne choisit rien, hein, cette histoire. Donc, qu'est-ce qui fait que je suis un être moral? C'est pour ça que ça me conduit aussi peut-être vers la question, l'homme est-il un animal religieux? Et bon, je continuerai sur Nietzsche aussi, parce que Nietzsche, justement, après avoir annoncé la mort de Dieu, comme je l'avais dit très rapidement la semaine dernière, il écrit aussi un aphorisme qui s'intitule « Pourquoi nous aussi nous sommes encore pieux ?» Et bon, ça peut aussi nous conduire du côté de Lacan qui lui écrit dans l'éthique de la psychanalyse Dieu est inconscient. Quelle est l'instance qui me structure comme sujet moral, qui fait que je suis un sujet moral, si ce n'est pas la peur de la punition divine, du châtiment divin éternel ou l'espoir de la récompense? Enfin bon, voilà. C'est des questions que je laisse complètement ouvertes et que je travaillerai la semaine prochaine.